Le journal est présenté par Thomas Pontillon.
Bonsoir. Le premier procès des biens mal acquis aura bien lieu. Le vice-président de Guinée équatoriale est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris. Le fils du président devra répondre des avoirs qu'il possède en France, des dizaines de millions d'euros. C'est une page d'histoire qui va se tourner à Belfort. La chaîne de production d'Alstom va s'arrêter d'ici 2 ans. Une douche froide pour les salariés qui pensaient récupérer la future commande de la SNCF. Détention à France Télévisions. L'émission envoyée spéciale a préparé un numéro sur l'affaire Big Malion. Mais la date de diffusion est au cœur d'un conflit entre les journalistes et leur direction. Et puis cette nuit, c'est le début des Jeux Paralympiques au Brésil. Et comme pour les valides, les contrôles antidopage auront bien lieu. Mais ils sont un peu spéciaux, vous l'entendrez. Un hôtel particulier à Paris avec des robinets couverts de feuilles d'or, des voitures de luxe, des œuvres d'art. Le premier procès en France des biens mal acquis se profile, celui du fils du président de Guinée équatoriale. Il est renvoyé en correctionnel. D'autres enquêtes sur différents chefs d'État africains et leurs entourages se poursuivent. Météonor Obiang sera donc le premier à s'expliquer devant la justice. Il est soupçonné d'avoir détourné des sommes astronomiques des caisses de l'État guinéen pour se créer un patrimoine, alors que la moitié des habitants de son pays vivent sous le seuil de pauvreté. Un procès qu'il a tenté à plusieurs reprises de faire annuler, explique William Bourdon, président de Sherpa et avocat à l'origine de la plainte.
C'est pas parce qu'on essaie d'enliser une procédure par tout moyen que les juges, à un moment donné, plient le genou. Heureusement d'ailleurs, c'est la force du droit, c'est l'indépendance de la justice, c'est la ténacité des magistrats instructeurs. On va aller jusqu'au bout. Et puis il y a l'autre chapitre, les 2 autres chapitres, qui concerne le clan Sassou Nguesso et le clan Bongo, qui sont déjà ouverts et qui vont connaître aussi une issue. Et cette décision, elle consolide du plus fort l'incroyable légitimité juridique, historique de cette procédure des biens mal acquis. Cette procédure, elle va aider un certain nombre d'Africains à tourner la page sur une espèce de culture de la kleptocratie qui fait tellement de ravages. On voit ce qui se passe au Gabon. Plus on est soupçonnable d'un certain nombre de détournements, plus on s'accroche au pouvoir, et plus on s'accroche au pouvoir, plus on est tenté d'être dans des fuites en avant. Donc c'est une étape importante, mais ça n'est que le prologue, la préface d'une odyssée judiciaire qui est loin d'être terminée.
William Bourdon, avocat à l'origine de la plainte et de l'affaire des biens mal acquis. C'est une manœuvre inutile qui peut faire monter les tensions, dénonce Washington. Un avion de chasse russe s'est approché de trop près d'un avion américain au-dessus de la mer Noire. Une interception dangereuse à moins de 3 mètres en plein vol, selon le Pentagone. Une interception dans les règles, tranche Moscou. Elle est accusée d'avoir tué ou estropié plus de 50 000 personnes à travers le monde depuis 50 ans. Les bombes à fragmentation seront toutes détruites d'ici 2030. C'est l'accord conclu aujourd'hui à Genève entre 119 pays. Des bombes à sous-munitions utilisées encore aujourd'hui en Syrie par le pouvoir et par la Russie. Elles sont particulièrement ravageuses car certaines petites bombes à l'intérieur n'explosent pas et se transforment ensuite en mines. C'est d'ici qu'était sortie en 1880 la première locomotive à vapeur. L'usine d'Alstom de Belfort, qui emploie près de 500 personnes, va en grande partie fermer ses portes en 2018. Annonce aujourd'hui du constructeur ferroviaire qui veut favoriser un autre site en Alsace. La faute à un carnet de commandes pas assez rempli. Pourtant ce matin, la SNCF a annoncé qu'elle allait probablement s'offrir 50 à 200 rames d'Alstom d'ici 2 ans. L'annonce a été du coup encore plus dure à encaisser, Hugo Flotatalon.
À la sortie de l'usine, les salariés défilent en silence, la tête basse, les yeux rougis. Pour beaucoup, il est même difficile de s'exprimer.
On l'a appris à 2h, qu'à 2h30, on était appelé vers le directeur pour qu'il nous annonce cette nouvelle. Dans 2 ans, tout le monde sera dehors.
Après 25 ans d'Alstom, le regard dans le vide, Lionel rejoint lentement sa voiture sur le parking de l'entreprise.
Ben là, on est dégoûté. Plus de jambes, plus rien, on est plus motivé. Donc eux, ils attendent quand même qu'on bosse. Mais bon, bosser dans une conjoncture comme ça, c'est pas possible. Ce qui fait un peu peur, c'est que les gens qui sont assez faibles, donc on ne sait pas comment ça va se passer. Il faut qu'ils pensent quand même qu'il y a des gens qui ont des enfants, donc ils partiront pas comme ça non plus.
Et quand ce n'est pas l'abattement, c'est comme pour Abdelissam et Adrien, c'est la colère qui prend le dessus.
On vit tout en France, hein. Il n'y a plus rien. Hein. On travaille, ça fait 10 années. Moi, je paye 1000 euros tous les mois à mon crédit. Je travaille tout seul. C'est la fin des haricots. Et tout le monde s'en bat les couilles de notre gueule. On est abandonné.
Moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est M. Macron qui est venu à Belfort qui a dit pendant 10 ans, on risque rien. Quoi. Des mecs comme ça, il ne faut même pas les élire au gouvernement. Hein.
Les salariés en appellent d'ailleurs au pouvoir public. Côté syndicat, on se dit prêt à mener le combat et on rappelle que les Alstom voteront aussi à la présidentielle l'an prochain.
Un accord trouvé ce soir entre les éleveurs de viande bovine et Carrefour. Les agriculteurs se sont mobilisés aujourd'hui dans ces enseignes dans toute la France, lui reprochant des prix d'achat trop bas, stratégie visiblement payante, puisque la Fédération nationale bovine annonce ce soir la signature d'un accord sans en dévoiler la teneur. Un plan de lutte contre le sexisme, il a été dévoilé aujourd'hui par Laurence Rossignol, la ministre en charge du droit des femmes. Elles sont 80% à avoir été victimes de réflexions, de mauvaises blagues à leur travail. Et une grande campagne de communication est donc lancée à partir de demain pour une prise de conscience dans la société. On en parle avec notre invitée Brigitte Grécy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire générale du Conseil supérieur à l'égalité professionnelle femmes-hommes. Et la campagne va s'attacher à montrer le sexisme au travail, dans le sport et même à la maison. C'est ce que vous appelez le sexisme ordinaire et finalement le plus répandu.
Oui, il est le plus répandu et il est le plus invisible, donc le plus difficile à mettre en lumière, évidemment. Alors le sexisme ordinaire, la définition est un petit peu compliquée. Ce sont tous les actes, attitudes, comportements qui, l'air de rien, de façon insidieuse, parfois sournoise, délégitiment, décrédibilisent, infantilisent les femmes, alors dans le milieu du travail, ou dans la rue, ou dans les médias, et contribuent évidemment à créer une souffrance psychique et morale assez importante, mais surtout contribue à, lorsqu'il s'agit du milieu du travail, à limiter sa progression de carrière, à limiter ses ambitions. Et donc l'impact est très très important.
Et vous l'avez dit, la campagne va justement viser à mieux identifier ce sexisme ordinaire, où parfois la frontière entre la mauvaise blague qui peut être dite de manière anodine pour celui qui l'a dit, et la parole qui a du mal à se libérer, la frontière est parfois assez mince.
Oui, la frontière est assez mince, mais en même temps, si vous voulez, on a regardé un certain nombre de décisions de jurisprudence précisément sur des choses de ce genre, et certains juges ont dit « Oh, mais ce sont des propos graveleux d'un dragueur un peu lourd ». Or non, ce sont des actes prohibés. Donc évidemment, la blague sexiste lancée comme ça à la machine à café, une fois en l'air, peut-être, mais de façon répétée, insidieuse, toutes ces blagues qui sont unilatérales, c'est-à-dire qui ne font pas rire l'autre, qui forcent l'autre à ricaner bêtement par peur d'apparaître sinon comme la caractérielle, celle qui comprend rien, celle qui n'a pas d'humour. Autrement dit, que ce soit les blagues sexistes, que ce soit des incivilités en tout genre, notamment dans les réunions, que ce soit des opérations de fausse séduction, c'est-à-dire unilatérale, la séduction c'est un jeu à deux, que ce soit du sexisme bienveillant, que ce soit des remarques sur la grossesse, la maternité, toutes ces petites choses finissent par agir, d'abord en excluant un peu les femmes du monde du travail, et puis surtout en faisant en sorte que les femmes s'auto-excluent, s'auto-censurent parce qu'elles-mêmes anticipent ce qui va être dit et finalement le sexisme joue beaucoup contre la confiance en soi des femmes.
Et c'est une problématique qui touche quasiment toutes les femmes aujourd'hui.
Ça touche absolument toutes les femmes, ça touche également les hommes, hein, parce que les hommes peuvent être aussi victimes de sexisme et dans des proportions sans commune mesure, bien évidemment. Mais toutes les femmes, alors évidemment, il y a des cibles un petit peu plus identifiées, par exemple les très jeunes, les femmes enceintes ou les très vieilles. Enfin, il y a des, comme ça, des cibles qui peut-être sont encore plus victimes, ou alors les femmes managers. Mais globalement, toutes les femmes, et on voit bien dans le sondage qui va être rendu sur le sexisme, toutes les femmes ont connu des épisodes de sexisme.
Alors, comment expliquer que ce phénomène perdure encore autant, puisqu'il est quand même puni par la loi aujourd'hui ?
Alors, il est puni par la loi aujourd'hui depuis 2015, puisque la loi Rebsamen a permis de faire advenir ce qu'on appelle l'agissement sexiste, qui est une grande nouveauté, c'est-à-dire que c'est une disposition qui vise le sexisme ordinaire, parce qu'avant, on avait des dispositions contre le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, l'agression sexuelle, mais on n'avait rien pour essayer justement d'attraper tous ces petits faits apparemment anodins et qui, en fait, sont du sexisme ordinaire. Alors, pourquoi c'est si fort toujours ? C'est qu'en fait, cela repose sur des stéréotypes de sexe qui ont été inculqués aux filles et aux garçons depuis l'enfance. C'est-à-dire qu'à l'école aujourd'hui, les filles et les garçons n'apprennent pas la même chose. La construction de leur ambition, la construction de leur destin, entre guillemets, n'est pas identique. Et donc, du même coup, que ce soit le sens du risque d'un côté, l'apprentissage de l'autonomie ou un certain conformisme, la répétition des modèles familiaux traditionnels ou des choses comme ça, toutes ces choses-là font que finalement, les femmes dans le monde du travail ou dans la rue ont intériorisé toute une série de stéréotypes de sexe, et les garçons aussi, et ils ont été quasi naturalisés, et sont devenus invisibles. Et donc, ils légitiment en quelque sorte ces inégalités.
Et on combat moins aujourd'hui le sexisme que l'homophobie ou le racisme, par exemple.
Oui, il y a une tolérance sociale au sexisme bien plus forte que la tolérance au racisme et à l'homophobie. Mais tout ça parce qu'il s'agit d'hommes et de femmes, c'est-à-dire d'individus qui vivent tout le temps ensemble et qui ne sont pas une minorité. Hein. Voilà, ils sont à égalité et ils se jouent entre les hommes et les femmes et c'est très bien comme ça. Ils se jouent toutes sortes de choses hein, qui sont de l'ordre aussi du désir, etc. Et qui fait que, eh bien, il y a une difficulté à se comporter parfois dans les relations de travail homme-femme ou dans la rue, à se comporter de telle façon que, eh bien, ce qui est de la sphère privée, c'est-à-dire tous les jeux hommes-femmes dans la sphère privée, ne viennent pas se reproduire dans la sphère publique.
Brigitte Grécy, secrétaire générale du Conseil supérieur à l'égalité professionnelle femmes-hommes, merci d'avoir été notre invitée ce soir sur France Culture. Deux personnes toujours en garde à vue ce soir après la découverte d'une voiture remplie de bonbonnes de gaz garée devant Notre-Dame de Paris. Le propriétaire du véhicule, qui est une fiche S, a lui été remis en liberté. Sa fille de 19 ans en revanche, dont il avait signalé la disparition dimanche, est activement recherchée. Elle est connue de la justice pour des velléités de départ vers la Syrie. Les enquêteurs n'ont pas retrouvé dans le véhicule un système de mise à feu. Le parquet antiterroriste est quand même saisi de l'affaire. Un bras de fer en ce moment à France Télévisions, au cœur de la tension, l'affaire Big Malion et la date de diffusion d'un reportage d'Envoyé spécial. Élise Luzet voulait fin septembre. Michel Fil, le directeur de l'information, préférait lui à la fin de l'année, après les primaires de la droite. Le canard enchaîné évoque plutôt des tensions provenant des pressions venant du camp Sarkozy, formellement démenti par le directeur de l'information, Lucas Valdener.
Il faut savoir que dans cette émission, il y a une interview très attendue. Celle de Franck Attal, le patron de la filiale qui organisait les meetings de Nicolas Sarkozy en 2012. Ce qui se retrouve aujourd'hui au cœur de l'affaire. Selon Canard Enchaîné, l'entourage de l'ancien chef d'État aurait fait pression sur la direction de l'information pour ne pas diffuser l'émission avant les primaires de la droite fin novembre. Et les équipes d'Élise Lucet auraient donc été priées de se soumettre à cette nouvelle programmation. Branle-bas de combat, les tensions reviennent 5 mois après cette motion de défiance adoptée par les journalistes contre Michel Field. Et finalement, toujours selon le Canard, le sujet pourrait être diffusé avant les primaires. Mais le 8 septembre, demain, est dans une version raccourcie, hors de question pour les équipes d'Élise Lucet. Et finalement, on ne sait toujours pas quand sera diffusé cet épisode d'Envoyé spécial. Alors, y a-t-il eu, oui ou non, des pressions? C'est évident, selon les syndicats, il y a eu des mails, des traces écrites. Mais pour l'instant, rien n'a été publié. Des pressions? Bien sûr que non, rassure la direction de France Télévisions, ce qui est confirmé. En revanche, c'est qu'il y aura bien un extrait de l'émission dans le journal télévisé de 20h, et ce sera demain soir.
Au Brésil, c'est cette nuit le début des Jeux Paralympiques et comme pour les valides, la cérémonie d'ouverture aura lieu tout à l'heure au stade Maracana. Et comme pour les valides, les 4300 athlètes seront contrôlés par une commission antidopage, portant pas d'EPO ni d'hormones de croissance chez les sportifs handicapés. Mais la méthode utilisée est à peine croyable, c'est l'automutilation, une pratique interdite mais qui persiste, Clara Lecoq-Réal.
Dans un gymnase parisien, Stéphanie vérifie ses roues avant de commencer l'entraînement de rugby fauteuil. Ici, le boosting est une pratique bien connue.
C'est de se blesser volontairement afin d'augmenter l'afflux sanguin pour augmenter les performances physiques. Par exemple, se fracturer au niveau des jambes, se saigner et ne pas aller aux toilettes. C'est le dopage des tarés.
Le catalogue des horreurs est presque sans fin. Pour ceux qui ne ressentent pas la douleur, il y a aussi la punaise dans les fesses, autant d'agressions physiques qui augmentent la tension, provoquent un pic d'adrénaline et peuvent donc améliorer les performances. Pas de quoi convaincre toutefois David, tétraplégique.
C'est juste pour abîmer son corps, ça n'a pas trop d'intérêt. Il faut vraiment être au niveau et être malhonnête dans son sport. S'il y a de l'argent, c'est comme tout, s'il veut gagner de l'argent, et voilà, quoi, ça peut arriver.
Car les athlètes handicapés ne sont jamais professionnels. C'est donc un peu le dopage des pauvres, selon Philippe Guettem. C'est lui qui s'en charge à la Fédération française de handisport.
On a comme consigne chez les paraplégiques de vérifier leur tension avant une épreuve. Et s'ils ont une tension élevée, on peut leur interdire la compétition. Vous avez un risque de rupture d'anévrisme, les complications rénales, les complications oculaires. Et toute plaie chez un paraplégique peut amener jusqu'à une amputation.
Selon une étude menée en 2008 par le Comité paralympique, près de 17% des sportifs handicapés avouent avoir déjà eu recours à l'automutilation.
Et on termine avec la météo pour demain. Il va pleuvoir dans le sud-ouest le matin. Grand soleil partout ailleurs. L'après-midi, ça s'améliorera nettement. Le thermomètre dépassera partout les 22 degrés jusqu'à 30 dans l'est du pays. C'est la fin de cette édition préparée ce soir avec Jean-François Braun.